le journal Jacques-Yves Molima.
Poursuit des travaux ce mercredi de la deuxième conférence internationale sur le programme de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants en Afrique, les participants réfléchissent sur l'amélioration de ce processus. Cinq jours après l'adoption de la motion de défiance contre le gouverneur du Kasaï occidental, le président de l'Assemblée provinciale confirme la constitutionnalité de la motion et attend la CI pour l'élection d'un nouveau gouverneur dans les 15 jours. Province orientale, affaire des 50 tonnes de mitraille et des câbles électriques saisis à Kisangani. L'avocat de la compagnie aérienne Air Navette dénonce l'arrestation arbitraire de trois cadres de la société, mais le vice-gouverneur l'invite à présenter ses preuves. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Mais avant de les développer, sachez que des changements sont intervenus à la tête de l'armée congolaise et de la police nationale. Le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement a lu hier soir sur la télévision nationale RTNC les ordonnances présidentielles relatives à ce changement. Le lieutenant-général Kayembe Mbandangulu est nommé chef d'état-major général en remplacement du lieutenant-général Kissimpiasu Ngilanga. Le général Gabriel Amissi reste à la tête de la force terrestre, tandis que la direction de la force aérienne revient au général Massamba Musungiri Gobert et la force navale au vice-amiral Etumba Diedoné. À la police nationale, l'inspection générale sera désormais commandée par le général John Numbi. Il remplace à ce poste le général Kachuva Kachuvira. Au niveau de la province de Kinshasa, le général Olenko remplace le général Patrick Sabiti. Notez aussi que l'unité de la police intégrée UPI, le corps de protection rapprochée CPR, ainsi que le centre de coordination de la police intégrée CCPI sont dissous. La deuxième conférence internationale sur le programme de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants dans la vie civile en Afrique. Les travaux se poursuivent ce mercredi. Cette conférence a pour but de s'attaquer aux défis liés à l'amélioration du processus de désarmement des anciens combattants pour une bonne réintégration dans la vie civile. 200 représentants d'une vingtaine de pays africains et des bailleurs de fonds y prennent part. Reportage Nazar Koko.
Il est principalement question au cours de ces assises de favoriser les échanges entre les pays africains qui ont réussi les processus DDR comme le Mozambique, ceux qui l'ont en cours tels la RDC et ceux qui viennent de le commencer à l'instar de la Côte d'Ivoire, cela pour permettre aux Africains de s'approprier le processus en vue de sa meilleure réussite. La tenue de cette conférence à Kinshasa a permis à William Swing, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, de singulariser l'expérience de la RDC.
Cette conférence se déroule au moment où le programme national de DDR et le programme stratégique national d'intégration des forces armées sont à la croisée des chemins, avec un accroissement sensible des risques sécuritaires dus à des causes factuelles immédiates telles que, premièrement, la présence des groupes armés locaux en Ituri, dans le Kivu et au Katanga. Deuxièmement, l'existence des groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Troisièmement, la cohabitation entre brigades brassées et non brassées.
Plus de 132 000 ex-combattants sont passés dans le processus en RDC. Cependant, son moyen faible reste la réintégration des anciens combattants dans la vie civile. Au demeurant, toutes les raisons qui ternissent l'image du DDR congolais doivent être identifiées avec honnêteté et sans tabou pour améliorer le futur, a estimé pour sa part l'ambassadeur belge à Kinshasa, dont le pays cofinance avec la Suède de ses assises. Au nom du gouvernement congolais, le ministre congolais des Affaires étrangères a souhaité voir les conclusions de ses travaux aider à amener à bon port le DDR congolais en vue de la réforme du système de sécurité. Ces conclusions sont attendues jeudi prochain.
Au Maniema, récupération des quelques 99 armées de guerre longtemps détenues par les ex-combattants des forces armées de Balanga. C'est le résultat de la mission éclair effectuée lundi par le vice-gouverneur de province et la délégation du Conseil provincial de sécurité à Lokando, localité située à 60 km de Kindu en aval du fleuve Congo. Le vice-gouverneur Pierre Massoundi Mendes est au micro de Dieudonné Toumba Mobile.
Je suis revenu hier à 22h avec 99 armes de guerre. Il fallait un peu de courage. J'étais encouragé par le général commandant 7e région militaire. J'étais encouragé par le directeur de l'ANR ainsi que celui de la DGM. Nous sommes partis. Nous les avons trouvés. Nous avons négocié. Ce sont des gens qui nous ont montré un patriotisme vraiment approfondi. Ils nous ont compris et nous avons échangé, ils nous ont remis des armes. Donc quand nous sommes arrivés hier, nous avons remis une enveloppe importante et j'ai encore rendez-vous avec le 7 juillet prochain.
Pendant ce temps, le président de la République effectue ce mercredi une visite de travail en Afrique du Sud, selon une dépêche de l'agence France Presse qui cite le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Joseph Kabila aura ce mercredi des entretiens avec son homologue Thabo Mbeki au Cap. Selon la même source, le président Joseph Kabila devrait également faire un discours dans une conférence sur le commerce vendredi au Cap avant de regagner Kinshasa dans la soirée. 14 combattants hutus rwandais tués au sud Kivu, c'est le premier bilan des opérations militaires en cours menées conjointement par les FARDC et les casquets bleus de la brigade du sud Kivu. Selon le commandant de cette brigade, la MONUC, c'est la zone comprise entre la forêt de Mugaba à Ninja et le parc national de Kahuzi-Biega qui est le théâtre de ces opérations militaires. Le général Kamar Bajwa affirmait par ailleurs que la MONUC ne tolérera plus aucune perturbation dans l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Serge.
In the last operation that we carried out in Ninja Forest, 14 Rastas were killed and we have
la dernière opération que nous avons menée dans la forêt des Ninja a causé la mort de 14 Rastas et nous avons des bonnes raisons de croire que ces gens sont moralement et physiquement appuyés par le FDLR. L'opération qui se déroule ces jours-ci dans la forêt du parc national de Kahuzi-Biega a été lancée après le massacre de Kanyola.
A few things I would like to, for the information of the people of Bukavu, that there's a lot of fear that Mr. Kunda will come from north.
J'aimerais dire plusieurs choses à la population de Bukavu. Les informés qu'il y a des rumeurs qui circulent, les gens disent qu'un Kunda va arriver à partir de la province du Nord Kivu et que la ville de Bukavu sera assiégée comme c'était le cas en 2004. La situation de l'an 2004 ne pourra plus jamais arriver. Nous sommes préparés pour défendre la ville de Bukavu. À ce moment, si Kunda essaie, il aura à faire face à plusieurs forces. S'il ose s'aventurer dans cette partie, il recevra une leçon qu'il n'oubliera jamais toute sa vie.
Autre information au Bas-Congo, c'est l'école militaire navale de Banana à plus de 200 km de Boma qui ouvre ses portes. Il y a près de 10 ans que cette école ne fonctionnait plus, telle que nous l'a dit Vicky Oudia dans ses reportages.
Armée depuis l'avènement de l'AFDL, cette école militaire navale a une capacité de plus ou moins 100 unités. Mais aujourd'hui, avec la réouverture, elle a accueilli 74 personnes, tous des anciens marins. Selon le colonel Albert Kouyandi, commandant de cette école, par manque de moyens, seul le bloc état-major, la cuisine collective ont été réhabilités avec les moyens de bord. Les salles de cours sont dans bon état, mais il manque la peinture. Cette école militaire navale a des difficultés d'approvisionnement en eau potable à cause de la vétusté des tuyaux. Les installations pour le courant électrique sont presque inexistantes. Pour son fonctionnement dans les temps, l'État donnait des moyens conséquents, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Selon toujours la même source, les matériels didactiques sont vétustes. Après la théorie, il faut passer à la pratique, mais l'école manque un navire-école, pas de char automobile et pas de motivation pour les instructeurs civils et militaires. Cette école militaire navale est recouverte d'abord pour rehausser les niveaux des anciens marins et après encadrer les nouveaux. Matadi, Vicky de Radio Okapi.
Cinq jours après l'adoption de la motion de défiance contre le gouverneur du Kasaï occidental, le président de l'Assemblée provinciale brise le silence. Dans un point de presse tenu ce mardi, Omer Mijimbu confirme la constitutionnalité de cette motion et dit attendre la délégation de la CI pour l'organisation de l'élection d'un nouveau gouverneur de province dans les 15 jours. Omer Mijimbu est au micro de André Kambala.
Au mois de mai, du président le 19, le 20 jusqu'au 22 mai, il s'est tenu à Matadi une réunion de tous les présidents des assemblées provinciales du Congo. Au cours de cette réunion, on a examiné le rapport entre les assemblées provinciales et le ministère de l'Intérieur. On a sorti ce qu'on appelle déclaration de Matadi, qui a été rendue publique au grand hôtel dans le salon Lubumbashi. Il a été dit ceci, les assemblées sont des organes législatifs. Le ministre de l'Intérieur est de l'organe exécutif. Législatif n'est pas sous tutelle de l'organe exécutif. Donc, il y a séparation de pouvoir. Ce que l'Assemblée fait, c'est d'une façon autonome, ce n'est pas soumis au contrôle du ministère de l'Intérieur. Tout comme il n'y a aucune disposition légale, ni dans la Constitution, ni dans une quelconque loi, qui donne le pouvoir au ministère de l'Intérieur de s'ingérer aux décisions des assemblées provinciales.
soulignant que le président de l'Assemblée provinciale réagissait contre le message phonique lui envoyé par le ministre d'État chargé de l'Intérieur, message qui demandait donc le maintien de l'exécutif en place en attendant l'issue du recours du gouverneur Trésor Kapuku. Pendant ce temps, de l'autre côté, au Kassai oriental, le gouverneur de province a défendu hier mardi son programme d'action devant l'Assemblée provinciale, une occasion pour le chef de l'exécutif provincial de présenter aussi son équipe gouvernementale nommée au début du mois de mai. Julien Nyamouni était sur place au siège de l'Assemblée provinciale.
Ce programme d'action présenté par Alphonse Ngoï-Kassanje est essentiellement axé sur les 5 chantiers du chef de l'État, à savoir les infrastructures, l'emploi, l'éducation, la santé, l'électricité et l'eau. Le programme gouvernemental reprend dans son ensemble tous les aspects de la vie économique, sociale et politique de la province, sans oublier les questions liées aux droits de l'homme, à la modernisation du système sanitaire, en passant par l'éducation et le renforcement des mesures dans les secteurs miniers. Toutefois, le moins que l'on puisse dire, c'est que les députés provinciaux ne sont pas totalement satisfaits du discours programme du gouverneur de province. D'abord, les députés estiment que ce programme n'est pas chiffré dans la mesure où Ngoï-Kassanje se contente juste de donner le montant du budget pour 2007 de l'ordre de 6,393,384,000 francs congolais. Ensuite, il ne dit pas un mot sur d'où viendra cet argent et comment sera-t-il ventilé par secteur pour atteindre ses objectifs. En principe, une autre plénière devra être convoquée dans les 48 heures pour donner le temps à Ngoï-Kassanje de répondre aux questions que les élus ont soulevées en rapport avec les chiffres. Julien Demoigny, Mbujimaï, Radio Okapi.
À Kisangani, la compagnie aérienne Air Navette réagit face à la détention de ses 3 agents dans une affaire de 50 tonnes de mitraille et de câbles électriques prêts à l'exportation. Ce ferraille avait été saisi dans ses entrepôts la semaine dernière sur instruction du vice-gouverneur de la province orientale. Selon l'avocat de cette compagnie, les 3 cadres sont détenus arbitrairement alors que les vrais commanditaires de l'opération de vol de câbles électriques sont connus des autorités locales. Maître Firmin Nyangambi, avocat conseil de Air Navette.
Il s'agit d'une détention ou arrestation arbitraire dans la mesure où mes clients viennent de passer environ une semaine en détention par la police en termes de garde à vue, alors que nous savons que la durée légale de la garde à vue est de 48 heures, d'une part, et que d'autre part, la liberté ou le droit d'aller et de venir est un droit constitutionnellement garanti aux citoyens, de sorte que les détenir sans procédure légale et régulière relève tout simplement de l'arrestation arbitraire. Parce que en tant que transporteurs, ils ne peuvent être nullement considéré comme auteur ou co-auteur à quelque titre que ce soit de vol, dans la mesure où l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis aujourd'hui, c'est l'infraction de vol. Mes clients n'ont jamais été sur le terrain pour détenir les câbles de la SNEL. Mes clients n'ont jamais payé d'autres personnes pour le faire à leur compte. Ils ne sont que transporteurs. Et je crois qu'à travers le monde entier, les transporteurs reçoivent le colis des clients sous réserve de leur contenu.
De son côté, le vice-gouverneur de province appelle la compagnie aérienne au calme et a présenté ses éléments de défense à la justice. Joseph Bangakia.
La justice fera son travail, établira les culpabilités. S'ils sont innocents, c'est une bonne chose qu'ils soient acquittés. Mais s'ils sont coupables, ils seront sévèrement punis, je l'espère, parce que il ne faut pas qu'on joue avec la misère du peuple. Vous imaginez plus de 50 tonnes de câbles, tous ces pleurs, toutes ces familles dans le noir qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il faut voir les conditions dans lesquelles ces câbles étaient entreposés. Il est évident que l'agence connaissait pertinemment bien le contenu de ces sacs. Mais encore une fois, la justice, je fais confiance à la justice. J'invite l'avocat conseil au calme à préparer son plaidoyer, son dossier. Il aura l'occasion, devant les juridictions compétentes, de faire entendre sa voix. C'est ça aussi la démocratie.
Je disais donc que le vice-gouverneur a reconnu que les vrais commanditaires des opérations de vol de câbles sont encore en circulation. Il a promis de mettre la main sur eux. C'était donc un dossier réalisé par José de Chartemenga. Le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS ici à Kinshasa plaide pour la création d'une haute autorité de contrôle et de suivi des contrats miniers. C'est ce qui ressort de la première journée de réflexion organisée par le CEPAS, journée qui ont débuté ce mardi. Durant 3 jours, les participants examineront le rapport de la commission Lutundula et le contrat de gouvernance. À cet effet, le directeur du CEPAS émet le vœu de voir désormais les richesses du pays profiter amplement aux populations congolaises. On écoute le père Ferdinand Mouyigiroa au micro de Jeff Ngoï.
On ne peut pas dire que nous sommes un pays potentiellement très riche, mais manifestement visiblement très pauvre. Il faudrait que désormais les richesses du sol, du sous-sol de notre pays profitent aux Congolais et Congolaises de ce pays. Et c'est ça notre espoir, c'est ça notre rêve, et c'est le combat que nous menons. Au niveau de la réflexion, l'idée essentielle, une haute autorité de contrôle et de suivi des ressources naturelles. Nous avons choisi les rapports de la commission de Tundula. Il était opportun de pouvoir examiner ces documents importants.
À quoi sert encore ce rapport qui est resté une lettre morte?
Non, je crois que le rapport garde sa pertinence. La faiblesse, c'est le manque d'exploitation des recommandations de ces rapports. Mais en lui-même, il reste très valable et il y a un problème, c'est le problème de contrôle et de suivi. On signe le contrat et puis après on oublie. On peut donner des exonérations pour 5 ans et après on se rend compte que l'autre a déjà fait 10 ans. Il est exonéré. Alors il faut qu'il y ait des instances de contrôle fiscal, douanier, technique et qui oblige ces gens-là à répondre à des normes au niveau international.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.